Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ça fait très plaisir d'être avec vous, c'est bien, mais oui, bonjour, on peut se dire bonjour. C'est très bien. J'ai pris ma petite bouteille avec parce que j'avais presque envie de faire un peu comme ça, quoi, ce matin. Tu vois, des fois, je trouvais que le sang de Jésus, je me dis, bon, on devrait être couvert et tout, puis vous ne trouvez pas. En plus, ça fait un peu bouteille de savon, hein. Non, on va se doucher, s'asperger. Puis le Seigneur me redisait, ben, en fait, la transformation, elle vient toujours de l'intérieur. Hein. Donc, c'est mieux de boire plutôt que de vous couvrir de jus de raisin ou de vin ou de. Voilà. Ou je ne sais quoi, parce que ça arrive qu'en des circonstances particulières, on n'ait pas de jus de raisin et pas de vin. Hein, on en parlait ce matin en préparant cette Sainte Cène. Jean-Jacques a fait la Sainte Cène une fois avec du jus de grapefruit. Voilà, c'était dans un lieu anglophone, grapefruit. Alors, la personne, elle s'est trompée. Et puis, moi, j'ai déjà fait le 2 janvier, ça pourrait être cette année, j'ai déjà fait la Sainte Cène à la Clairette de Die. Vous vous rendez compte? Bon, là, ça casse tous nos schémas religieux, c'est très bien. Est-ce que tu arrives à switcher pour... Parce que je voulais quand même vous souhaiter joyeux Noël avec une petite photo de ma famille, voilà, comme ça, ceux qui ne nous connaissaient pas, alors... Ce n'est pas la famille parfaite. Hein. Il y a quelqu'un qui est un pasteur qui m'a fait la remarque. J'ai envoyé mes vœux, puis il a dit « La sainte famille ». Venez à la maison, vous verrez que ce n'est pas une sainte famille. Mais c'est une famille sanctifiée, certes. Merci Jésus pour sa grâce. Voilà, j'aimerais encore vous souhaiter joyeux Noël et puis vous redire que ce n'est pas le contexte qui compte. Hein, ce n'est pas le contexte dans la manière dont on fait ton Jésus, mais c'est vraiment la place de Jésus qui compte dans nos vies, dans nos familles. Ça, c'était le message de notre petit spectacle du 5 décembre, et je crois que c'est le plus important. Aujourd'hui, ce matin, donc, comme Jean-Jacques l'a dit, on va poursuivre notre série de messages intitulée « Saisir des victoires », et puis je le fais avec beaucoup de joie, parce que moi, ça m'enthousiasme de pouvoir saisir des victoires dimanche après dimanche. J'espère que vous avancez. Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que pour voir des victoires dans nos vies, nous devons savoir que nous avons le Dieu de victoire qui habite en nous. Alors, j'ai mis cette petite image pour nous le rappeler. C'est le seul qui est capable de faire reverdir un désert, de faire pousser des choses là où ça semble tellement impossible. On a vraiment un Dieu de victoire. Il combat pour nous, même si vous trouvez parfois que pousser votre caillou, hein, pour reprendre l'image de ce conte que nous avons eu, bah, votre caillou, il est lourd, vous poussez le caillou depuis trop longtemps. N'arrêtez pas de croire qu'il est bon. N'arrêtez pas de croire qu'il est bon. N'enlevez pas la possibilité que Dieu peut encore agir. Gardez ce petit grain de foi. Prenez courage dans vos luttes. Prenez courage dans vos moments d'intimité avec Dieu, parce qu'il n'y a rien... Il n'y a rien de plus précieux que ces moments-là. Donc, ne lâchez rien à la fin de cette année ou au début de l'année qui arrive. Ne lâchez rien. Et je crois que l'idée de cette série, c'est un peu ça, c'est de dire, ben, j'ai pas la prétention que suite à ce message, hop, la victoire est là, puis tout est fini. On a parlé de la dépression, on a parlé des choses qui étaient très fortes, très profondes. J'avais aucune prétention par rapport à ça. Mais je crois que alors qu'on laisse la possibilité à Dieu, un jour ou l'autre, quelque chose va se passer. Mais si on arrête de croire, si on arrête de penser qu'il est capable, si on arrête même de lui laisser la place du roi ou de prendre ce temps de repas avec lui, alors c'est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer du tout. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, laisser la place du roi, c'est quand même intéressant, hein, parce que c'est vrai, il est venu dans une crèche, quoi. Il est venu dans une crèche, le roi. Alors, c'est vrai que ce n'est pas si facile de lui laisser la place, hein. Parce qu'on est parfois un peu plus, on se prend un peu plus pour plus grand qu'on ne l'est, quoi. Hein, lui, il s'impose pas. Il est venu dans une crèche. Mais laissons-lui la place. Alors ce matin, on termine l'année ensemble. C'est quand même super. Hein. On va commencer l'année 2022 vraiment ensemble. Le 2 janvier, on termine ensemble aujourd'hui. Et puis, j'aimerais parler du thème de la culpabilité. Ah. Alors moi, je trouve que c'est pas mal, en fait, de prendre la culpabilité en fin d'année. Parce qu'en fait, on fait tous un peu le bilan de notre vie à la fin de l'année. on fait ce point de situation. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, hein, dans tous les domaines de nos vies, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, peut-être dans nos engagements bénévoles. Il y a des fois des questions qu'on se pose aussi dans notre vie morale. Et puis, quand on fait ces bilans, quand on fait ce scan, eh ben, on réalise que souvent, ce qui ressort de ce scan, c'est de la culpabilité. Peut-être que vous allez dire, non, pas vous. Mais en tout cas, moi, dans certains de ces domaines, je peux facilement avoir de la culpabilité. En plus, je ne sais pas si c'est parce que je suis pasteur, mais je crois qu'en fait, tous les chrétiens, on a un standard de vie assez élevé. Donc, on est des bonnes personnes, entre guillemets, des bons candidats à la culpabilité, parce qu'on met pas mal des standards élevés. On aimerait bien être parfait un peu dans tous les domaines. Puis alors, vous pensez qu'en tant que pasteur, ma vie spirituelle, il faudrait vraiment qu'elle soit toujours là, quoi. Hein, et puis si, puis ça. Et puis quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la culpabilité. Donc on se met beaucoup de pression, des standards élevés, puis quand on n'y arrive pas, ben, tac, c'est des fois dur. Hein. C'est des désillusions qui sont nombreuses. Donc cette culpabilité, c'est un peu de la moisissure. C'est comme un peu une moisissure qui prolifère vite et puis qui fait beaucoup de dégâts. Puis parfois, on ne s'en rend même plus compte. C'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'elle est là dans beaucoup de nos domaines et puis on s'y habitue un petit peu. On vit avec cette culpabilité. Cette culpabilité, elle peut être liée à des choses du passé qui reviennent. Hein. Peut-être ça vous arrive d'avoir des situations du passé qui sont censés être réglés, ou qui le sont probablement, mais qui viennent comme un peu vous hanter. Hein, ça peut être votre divorce qui revient, puis vous culpabilisez. Ça peut être peut-être avant d'être chrétien, chrétienne, vous avez vécu un avortement, puis vous n'arrivez pas à passer, puis ça revient. Ça peut être des culpabilités liées à vos enfants qui sont grands peut-être maintenant, vous dites « Ah mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire plus ». Et puis vous dites « Ah, puis en plus, mon enfant n'est pas dans la foi, alors j'ai loupé quelque chose ». Ça peut être bien sûr des choses du présent, toutes simples, du quotidien. Je peux me culpabiliser d'avoir mal répondu à quelqu'un. Ah, je lui ai mal parlé. Vous savez, ces coups de fil publicitaires. Hein, là, il n'y a plus de chrétiens. Hein, puis des fois, on se dit « Ah, mais quand même, c'est quand même des gens au bout du fil, quoi. Ah, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. » Ou bien, je n'ai pas pu aider l'autre. J'aurais voulu aider plus, puis je n'ai pas pu. J'ai dû dire non. Ou bien sûr, je n'ai pas pu prendre assez de temps avec Jésus. Voilà ce genre de culpabilité qui peut nous ronger. Alors ce matin, j'aimerais être assez pratique pour nous aider à avancer, à nous débarrasser de cette culpabilité. Donc on va regarder rapidement aux conséquences de la culpabilité. Puis on va regarder surtout à la vraie culpabilité et à la fausse culpabilité. Donc un petit peu au fondement de cette culpabilité-là. Ce qui me semble aussi important de dire, c'est que, comme je l'ai dit, la culpabilité, c'est une moisissure qui s'étend et puis qui va vraiment finir par tuer la vie. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle enlève notre joie. Lorsque vous êtes coupable, vous ne pouvez pas vous réjouir. Vous êtes coupé de la joie. Vous pensez sans cesse à ce qui vous ronge, ce qui vous culpabilise. Donc vous n'avez pas la joie, puis ça vous vole votre paix aussi. Vous n'êtes pas tranquille. Il y a quelque chose qui se passe là. C'est un petit peu comme si vous avez des gargouillis dans le ventre. On n'est pas très bien. Et puis, vous n'êtes pas très productif non plus parce que vu que vous pensez tellement à ça, vous n'arrivez pas vraiment à vous concentrer sur les choses que vous devriez faire. Parce qu'il y a la culpabilité. Puis la culpabilité, elle nous tourne sur nous-mêmes. Donc on n'arrive même plus à penser aux autres, on n'arrive plus vraiment à être en relation avec les autres. Parce que sans cesse, on revient sur ce problème que nous avons. Et puis, quelque chose d'assez grave, finalement, la culpabilité, elle nous empêche de nous aimer. Parce qu'elle amène une certaine colère ou un regard négatif sur nos vies, sur notre propre vie. Donc souvent, quand on est coupable, on s'en veut à soi-même. Hein, puis alors ça, c'est dur. C'est très dur. L'ennemi qui est l'accusateur par excellence, il sait très bien que la culpabilité, c'est une arme puissante pour nous dominer et pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, dans le plan que Dieu a pour nous. Il veut nous empêcher de briller pour Jésus, il veut nous empêcher de témoigner de la puissance et de la grâce de Dieu. Comment il fait ? La meilleure des choses, c'est la culpabilité. Ce n'est même pas le péché à quelque part. C'est ce qui est lié au péché, c'est la culpabilité. Alors ça, il peut nous avoir tous, tellement facilement. Est-ce que vous avez déjà eu de la culpabilité ? Alors il y a plusieurs situations possibles face à la culpabilité. La culpabilité, elle vient d'une réalité qui est factuelle et puis en même temps de nos pensées subjectives. Autrement dit, donc, c'est comme si elle a deux sources, hein, elle peut s'appuyer, elle peut se justifier dans nos vies, hein, la culpabilité, soit par une action qu'on a faite, donc par un fait, ou bien par une émotion qui n'a pas de réel fondement. C'est pour ça que je veux parler de vraie et de fausse culpabilité. Puis c'est important d'apprendre à distinguer les deux. Ce qui est certain, c'est que je peux me sentir coupable et être effectivement coupable. Ça, c'est possible, hein ? Je peux me sentir coupable et je suis coupable. Donc ça, c'est la meilleure des choses, en fait. Ça paraît pas être une bonne nouvelle, mais c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver. OK ? Parce que là, c'est assez facile d'avancer. Vous pouvez avancer. Vous pouvez être conduit, ça va vous conduire à la repentance, ça va vous conduire au changement. On va y revenir. Mais je peux aussi être coupable sans me sentir coupable. Alors là, c'est vachement plus embêtant, par contre. Vraiment. Il y a deux possibilités, soit parce que j'ignore la loi, hein, donc ça va encore. Si j'ignore la loi, donc je ne sais pas que je suis coupable, hein, je ne savais pas qu'il fallait absolument laisser mon masque. Ça m'arrive souvent de ne pas savoir, donc je parle pour moi. Alors si je ne savais pas, bon, je suis ignorant, donc il faut qu'on m'enseigne pour que je puisse faire le bon choix, pour que je puisse adopter le bon comportement. L'autre possibilité est que je ne veux pas voir et puis j'enfouis ce sentiment. Et puis ça, c'est ce que la parole appelle l'endurcissement du cœur. Dans Hébreux, j'ai mis juste la référence au chapitre 3, il est dit « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc le fait de finalement ne pas voir, de ne pas se sentir coupable, ça peut être à force d'enfouir, et puis on ne voit plus, on ne sait plus. Puis là, c'est que notre cœur, il devient dur. Puis c'est vraiment quelque chose que la parole nous met en garde. Que nous n'ayons pas, hein, plusieurs fois, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez Dieu, le Saint-Esprit, agir, nous toucher. Mais quand on ne veut plus de l'action de l'Esprit, lorsqu'on ne veut plus savoir, alors là, on s'endurcit. Le verbe endurcir, c'est ce qui a donné sclérose, hein, c'est sclérosé, d'accord, c'est marrant, hein, sclérose, ça bouge plus, c'est dur. Troisième possibilité, je peux me sentir coupable sans pour autant être coupable. Et là, c'est vraiment une réalité que probablement beaucoup d'entre vous vivez, connaissez. C'est donc une fausse culpabilité, une culpabilité sans fondement, qui est le fruit d'une mauvaise manière de penser. Donc c'est une forme d'auto-accusation qui est vraiment destructrice et qui peut nous plonger vraiment dans le découragement, dans le désespoir. Donc pour être libéré de ce sentiment de culpabilité, il est important de connaître ce qui est la cause de cette culpabilité, de l'analyser. Et puis bien sûr, il est essentiel de croire à la parole de Dieu et entre autres à ces deux versets qu'on peut retenir, Galates 5.1, vous connaissez déjà probablement par cœur, c'est pour la vraie liberté que Christ nous a affranchis. Et puis à celle de Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment des versets que je vous encourage à connaître par cœur. Hein, moi, je n'ai jamais quelqu'un qui dit qu'il faut absolument tout connaître par cœur, mais il y a quelques versets comme ça, c'est vraiment des versets clés. c'est bon. Alors, vu que la vraie culpabilité peut ou devrait nous amener à la repentance, moi, je ne crois pas ce matin que le Saint-Esprit va déconnecter complètement le module culpabilité dans nos vies. Il ne peut pas faire ça, parce que la culpabilité a un sens, elle a une raison d'être. Mais il peut vraiment nous aider à distinguer ce qui est juste ou non, et puis nous apprendre à gérer notre culpabilité comme il se doit. Alors, regardons un petit peu comment faire avec la vraie culpabilité. Faire face à la vraie culpabilité, ceux qui connaissent l'anglais, hein, il a griffé le fauteuil de cuir, ce brave chat. La culpabilité en elle-même, elle est déjà une forme de conséquence. Parce qu'on est tellement mal avec la culpabilité que c'est déjà une forme de conséquence. C'est une conséquence à notre désobéissance. Généralement, une vraie culpabilité, elle se distingue par les caractéristiques suivantes. On sait qu'est-ce qu'en est la cause. Donc si vous êtes vraiment, vous vous sentez coupable, il y a une culpabilité, puis que c'est une vraie culpabilité, généralement, vous savez pourquoi. Peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouer, mais au fond de vous-même, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Puis même, on sait ce qu'on devrait faire. On sait probablement ce qu'on devrait faire avec cette culpabilité. Peut-être qu'on n'y arrive pas. Et puis, ce qui se passe souvent avec la vraie culpabilité, c'est qu'on essaye de rationaliser, de s'excuser, hein, de se trouver des bonnes excuses, de se justifier, puis dire « mais non », et puis on peut même se comparer, puis finalement, je ne suis pas si terrible que ça, et puis ce n'est pas si grave. Mais au fond de nous, on sait que si on veut être libéré de ce poids de la culpabilité, il va falloir se mettre une fois ou l'autre en règle avec Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Puis c'est marrant parce que j'ai trouvé plein de livres et plein de choses sur la culpabilité dans le monde séculier. Puis ils veulent aussi être libérés de la culpabilité. Mais sans Dieu, tu ne peux pas. Tu peux effectivement trouver des méthodes pour oublier, pour passer par-dessus. Puis là, je crois qu'on enfouit vraiment bien, bien profond, tout ce qui, hein, pour pas que ça remonte, on blinde. Puis maintenant, c'est oublié, puis il faut passer à autre chose. Mais tant qu'on ne met pas en règle avec Dieu, on ne peut pas bâtir. Donc il y a vraiment une lutte intérieure qui est très très forte avec cette notion-là de remettre notre vie en règle. On va regarder quelques versets du psaume 32, psaume de David, qui a été lui aussi coupable de plein de choses. C'est ça pour ça que la Bible est fantastique, c'est que les grands hommes de Dieu n'étaient pas des hommes parfaits. Donc on sait qu'il a commis l'adultère, on sait ensuite que ça l'a amené même à tuer Uri, donc la femme de le mari de Bathsheba. Donc il a menti, enfin, ça a été une sorte de cascade. Et puis bien sûr, il n'y a pas eu que ça. Et puis il dit dans le psaume 32, on va dire juste les versets 3 et 4 pour commencer, « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » C'est comme la main de Dieu, mais quelque part ce poids de culpabilité face à son péché qui pesait lourdement. Et puis, au psaume 38, il décrit, je dirais même avec violence, la culpabilité. Il est dit ainsi, depuis le verset 4, « Il n'y a plus rien de saint dans mes os à cause de mon péché, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon corps, de mon cœur, m'arrache des gémissements. » C'est violent hein, comme description, comme texte. Mais cette culpabilité, elle peut rendre malade physiquement, mentalement, émotionnellement, tant que nous ne faisons rien. tant que nous n'ouvrons pas la bouche devant Dieu. Comme nous l'avons vu, il y a de la tristesse, de la sécheresse, un manque de force. C'est un lourd fardeau. Peut-être même vous lisez ça, vous dites, moi j'ai jamais ressenti ça autant que ça, quoi. C'est tellement pesant. Personnellement, j'ai vécu plusieurs fois des situations où je savais que mon péché m'avait éloigné de Dieu. J'étais vraiment coupable, c'était de la vraie culpabilité. J'avais raison d'être coupable. J'avais honte, tellement honte. Et je n'arrivais plus à parler à Dieu. Donc, durant ce moment, j'avais mal au ventre. C'était comme un peu bloqué là. J'étais triste. J'avais plus envie de rien. J'avais même juste envie de disparaître. J'avais envie de me cacher. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, des choses comme ça. Mais je savais que je devais revenir vers Jésus. Je savais que c'était là la solution. Je savais que c'était ça qu'il fallait faire. J'en avais peut-être même quelque part envie, mais c'était bloqué. Puis c'est vraiment un sentiment bizarre. Puis à un moment donné, j'ai dû dire, maintenant ça suffit. J'ai dû vraiment faire le choix, dire maintenant ça suffit, je ne veux pas mourir dans ma culpabilité. Je veux régler ça. Je veux briser ce silence. C'est comme si maintenant je veux tout lui dire. Puis là, tu peux vivre un vis-à-vis avec Dieu extraordinaire. Un moment où tu peux vraiment lui parler en vérité. Mais c'est un choix qui coûte. Puis je pouvais vraiment percevoir ou ressentir l'ennemi qui ne voulait pas que je brise ce silence, qui voulait que je garde la bouche fermée. Parce que lorsqu'on commence à parler à Dieu, la relation, elle se rétablit. Lui, il n'a pas changé. Lui, c'est le même. Alors là, quand on commence à parler, quand j'ai commencé à lui parler, il était là. Puis c'est comme si le poids, ça a commencé à se libérer. Je me souviens même avoir commencé par crier. En fait, j'étais tellement fâché contre moi. J'étais tellement fâché d'être tombé dans mon péché. J'étais tellement mal avec ça. Je m'en voulais. J'étais énervé au dedans de moi. Puis j'ai pu lui parler. Puis lui parler, puis lui dire, puis nommer les choses. Puis petit à petit, la paix est revenue. À la suite de ces versets qu'on a lus dans le psaume 32, le verset 5, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Le verset 3, c'est « Tant que je me taisais, tant que je me taisais, il y avait les gémissements. » Il n'y avait plus de vigueur. Et puis quand il a ouvert la bouche, quelque chose s'est passé. Alors dans l'Ancien Testament, on le sait, on en a parlé même, je vais relire un petit bout du texte qu'on a lu à la Sainte Cène, mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu un moyen pour que son peuple ne reste pas dans la culpabilité. C'était les sacrifices de culpabilité, les offrandes de culpabilité, on trouve ça dans Lévitique, comme extraordinaire. Donc ça veut dire que Dieu était tout à fait conscient de cela et il ne voulait pas que son peuple reste dans la culpabilité. Donc il y avait un moyen de sortir de cette culpabilité. Puis dans le Nouveau Testament, évidemment, c'est le sacrifice parfait qui a été fait une fois pour toutes, le sacrifice de Jésus qui nous rend libres. Je relis un petit bout de ce texte que Jean-Jacques nous a lu aussi, un petit peu avant, le verset 12. « Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. » Verset 14, « Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ce qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Je tiendrai plus compte ni de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. » Amen. Donc il y a vraiment l'œuvre parfaite de Christ que le Saint-Esprit vient confirmer. Hein, j'aime beaucoup, comme là c'est la version Summer. Hein. Le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Hein, donc j'aime bien cette réalité-là parce que c'est vraiment à l'intérieur de nos vies, c'est le Saint-Esprit qui vient confirmer dans nos cœurs. Et il n'y a plus besoin d'offrande. Nous sommes libres. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. Donc, encore aujourd'hui, Dieu ne veut pas que nous restions sous un joug de culpabilité. Il ne veut pas ça pour aucun d'entre nous. Ce n'est pas son projet. Alors, permettez-moi de vous poser quelques questions qui sont importantes. Avez-vous accepté le sacrifice de Jésus pour votre culpabilité? Vraiment? Dites pas oui trop vite. Est-ce que vraiment vous avez saisi ça? C'est la première étape. Avez-vous admis votre culpabilité? Avez-vous confessé votre péché devant Dieu? Mary Welchel, américaine et auteure du livre Libérée de la culpabilité, que je vous conseille. C'est une femme qui écrit d'abord à des femmes. Elle parle du syndrome de la femme super-héros. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. Voilà, c'est très intéressant. Et puis elle dit ceci: Dieu permet à la vraie culpabilité de continuer jusqu'à ce que nous soyons contraints de nous détourner de ce qui est mauvais pour rechercher la justice. Donc tant que ce n'est pas réglé, la culpabilité, elle va rester. Peut-être qu'on va réussir un petit peu à l'étouffer, puis après, hop, d'un coup, ça remonte, jusqu'à ce qu'on s'en occupe. Mais cette démarche, elle peut être très simple, elle peut se faire par une prière de foi, une prière fondée sur la parole de Dieu. Donc la démarche est assez simple, mais c'est le suivi. C'est une fois que j'ai compris, une fois que j'ai prié, une fois que j'ai confessé, il va falloir qu'il y ait un changement dans mes pensées. Il faut que cette réalité, mon péché est pardonné, devienne vraiment vrai. Et ça, c'est plus difficile. Moi, je me suis souvent culpabilisé de saisir la grâce. Vous imaginez ça? Je me suis culpabilisé de saisir la grâce. C'est quand même bizarre. C'est génial, la grâce. Mais je dis, mais quand même, Luc, est-ce que vraiment tu as assez fait? Est-ce que tu as assez regretté ton péché? Est-ce que tu l'as assez confessé? C'est quand même pas un peu facile de saisir cette grâce comme ça. Je suis tout seul ou ça vous est déjà arrivé? De vous culpabiliser de saisir la grâce, c'est quand même pas mal, hein? Faut y aller. Faut y aller. C'est trop facile, ça on entend souvent, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah mais c'est quand même trop facile. » Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Si on pense que c'est trop facile, c'est qu'on n'a pas vraiment compris ce que Jésus a fait à la croix. Donc si tu penses que c'est trop facile de saisir la grâce, c'est que tu n'as pas compris ce que Jésus a fait à la croix. Reviens à la croix. Reviens à la croix. Tu vas voir que ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout si facile que ça. Il a vraiment payé le prix. Alors pour arriver à nous libérer de cette culpabilité, je vous encourage aussi. Donc, et pour saisir ce nouveau fonctionnement, finalement, je vous encourage à vous opposer au faux raisonnement par la vérité de la parole de Dieu. Il faut contrer l'ennemi qui va essayer de vous reculpabiliser pour des choses que vous avez déjà confessées et qui vous a pardonné. Lors du premier message de la série, j'avais donné une liste de versets pour vaincre notre sentiment d'impuissance. Là, je vais vous donner quelques petites clés qui sont aussi tirées de ce livre dont je viens de vous parler. C'est les antidotes de la parole de Dieu. Mes péchés passés sont trop graves. Hein, alors quand l'ennemi vient avec ça, hein, mes péchés passés sont trop graves, je peux pas passer à autre chose, je ne peux pas être pardonné, je ne peux pas être libéré de la culpabilité. Ben voilà deux passages qui peuvent vous y aider. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est loin de la colère, riche en bonté. Je n'ai pas mis tout le passage. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Ésaïe 43, 25, « Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Deuxième possibilité, j'ai trop souvent gâché les choses. Hein, on regarde en arrière, puis j'ai trop foiré, j'ai trop loupé. À un moment donné, c'est fini. J'ai plus de xème chance. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je vous fais une chose, oubliant ce qui est derrière. Et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix et l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc j'oublie ce qu'il y a derrière, je cours, je me centre, je me concentre sur Christ. Encore la suite de Ésaïe 43, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne le remarquerez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut faire ça, comme je l'ai dit en introduction. Troisième chose, je ne sais rien faire pour le Seigneur. Ça aussi, il y a des gens qui ils se culpabilisent finalement de rien faire. Puis en plus, ils se sentent comme nuls. Philippiens 4, 13, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Donc on peut simplement se confier en Christ et puis ne pas croire ces mensonges de l'ennemi. Puis une dernière, je ne suis pas la bonne personne, je n'ai pas la bonne apparence. Donc des fois, on se culpabilise aussi, on ne se sent pas à la hauteur. Donc on connaît bien 1 Samuel 16, 7. Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi, c'est l'Éternel qui parle à Samuel. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Puis 1 Corinthiens 1, 27, 28. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Amen. Donc il y a de l'espoir pour tout le monde. Deuxième chose, pour changer ces schémas de pensée, j'aimerais vous encourager à offrir votre louange à Dieu, votre reconnaissance pour sa grâce, pour sa victoire. Puis je vous encourage dans ces moments où vous voulez lâcher cette culpabilité, donc vous confessez, vous laissez pas les pensées de l'ennemi entrer, vous contrez, et puis vous chantez, vous proclamez, vous parlez la parole de Dieu, vous chantez sa victoire. Parce que de nouveau, vous ouvrez votre bouche. Parler à haute voix est hyper important. Si je chuchote, si je garde à l'intérieur, je vous le dis par expérience, lorsque j'étais plein de ma culpabilité et puis que l'ennemi ne voulait pas que je parle à Dieu, il y avait un blocage ici, comme un nœud. Mais si je le disais dans ma tête, « Seigneur, oui, tu as la victoire », mais je disais dans ma tête, rien ne se passait. Mais lorsque j'ai commencé à crier, lorsque j'ai commencé à parler, je leur dis, « Mais tu es le Dieu de victoire », quelque chose a lâché. Et je crois que c'est important. Confesser de la bouche, proclamer la parole à haute voix, l'adorer, le remercier, lui redire qu'il a la victoire. Ça a de la puissance dans les lieux célestes. Et parfois, moi, je pianote, alors je prends le piano, mais même dans ce moment-là, je me souviens très bien, je pouvais jouer de la belle musique, des jams, de la louange, mais ma boule, elle était toujours là, mais je n'arrivais pas à chanter. Et lorsque j'ai commencé à... C'est comme un effort. Dire maintenant, je brise ça. Et puis j'y vais. Quelque chose s'est passé. Parlons au Seigneur. Et puis osez vous poser les vraies questions. Donc on fait toujours faire un petit bilan. Ok, j'ai désobéi. Pourquoi ? Est-ce que je veux vraiment plus de cette culpabilité ? Ou est-ce que je veux la garder ? Qu'est-ce qui me retient encore dans cette culpabilité ? Et parfois, de noter les choses, de dire, ok, en fait, parce qu'on sait qu'on a un sentiment de culpabilité, mais des fois, on ne sait plus exactement pourquoi ou quels sont les mots. Et en fait, je me sens coupable. Parce que par rapport à un seul fait, j'ai plein de culpabilité. Si moi, je tombe dans le péché en tant que pasteur, je dis, c'est ma vie spirituelle, c'est une porte ouverte sur l'Église, c'est mon leadership. Il y a plein de choses où je me culpabilise, ça ne devrait pas arriver, etc., etc. Donc, je note ces choses-là. Il faut noter. Qu'est-ce qui vraiment vous culpabilise ? Parce qu'il n'y a pas une seule chose. Il y a plein de choses. Ça peut être dans différents domaines. Et puis ma famille, puis qu'est-ce qu'ils vont dire ? Puis, tout ça vous culpabilise. Donc on peut noter ces choses-là. Et puis on peut les régler les une après l'autre. Et puis quand on a pu confesser notre péché, qu'on a pu parler à Dieu, quand on a retrouvé cette paix, alors on peut dire, je peux tracer, c'est pardonné. Il n'y a plus de place à la culpabilité. Des fois, on a besoin de matérialiser ce qui est finalement, qui n'est pas matériel. Hein, donc de pouvoir mettre sur un papier, de pouvoir dire, ok, non, maintenant c'est fini. C'est pardonné, culpabilité terminée, fini. J'ai appliqué ça et en tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Deuxième chose, c'est la fausse culpabilité. Comme je l'ai dit, la fausse culpabilité, ce n'est pas quelque chose de factuel, ce n'est pas objectif, ou objectivement justifié. Mais pour nous, on la justifie à l'intérieur de nos vies. Pour nous, la fausse culpabilité, elle a un sens. Et on doit faire donc la différence entre la vraie et la fausse culpabilité. Alors, un exemple que j'aime bien prendre, c'est l'apprentissage à mettre des limites. Lorsqu'on est gentil comme moi, hein, on dit beaucoup trop oui. On dit oui à tout. On est serviable et puis, chaque fois que les gens nous demandent quelque chose, oui, pas de problème. Et puis, à un moment donné, ben, ça devient compliqué. Bon, on pourrait se dire, bon, déjà, pourquoi on dit oui facilement? Pourquoi on est, hein, peut-être qu'il y a un désir de ne pas décevoir. Il y a peut-être ça va un peu dans le même sens, hein, de ne pas être rejeté. Il y a peut-être le désir de plaire, il y a le désir d'être aimé. Hein, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et puis ça peut être aussi simplement un don de service super, qu'il faut bien gérer. Ok. Mais lorsqu'on fonctionne comme ça, vient un moment où les gens, à quelque part, ils nous utilisent un peu. Même vos amis, vos familles, elles savent que Luc, il dit toujours oui. Il est toujours prêt à rendre service. Alors on va lui demander. Hein? Il dit oui. Super. Puis d'un coup, ça casse en nous. D'un coup, on n'en peut plus. D'un coup, on est submergé. Puis plutôt que d'avoir géré ça avant, hein, ça, on pète un câble. Puis d'un coup, on va exploser avec quelqu'un. Puis il dit, mais franchement, ça fait 5 fois que tu me demandes. Et puis, tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Hein? Puis avant, le gentil, paisible, il explose d'un coup. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Donc on doit apprendre à dire non, on doit apprendre à dire stop, à mettre des limites. Mais quand on commence à le faire, c'est tellement difficile pour nous qu'on se culpabilise. Chaque fois qu'on dit non à quelqu'un, on se culpabilise. C'est dingue. Pourtant, ça c'est vraiment la fausse culpabilité. Et parce qu'on va décevoir l'autre. Ah mais il aurait quand même eu besoin d'un coup de main. Mais l'autre, il est grand, mais l'autre, il peut se débrouiller, mais tu n'es pas indispensable. Mais on doit apprendre, et puis on a ce sentiment-là de culpabilité qui vient. Donc ça, c'est vraiment la fausse culpabilité. Un autre exemple personnel, je me suis senti parfois coupable, vous n'allez pas me croire, d'être en vacances. Non, les profs, vous ne pouvez pas comprendre. Non. Dingue, hein, sans que personne me fasse la remarque, hein, sans que personne me fasse... J'avais en moi ce sentiment qu'un pasteur ne peut pas prendre autant de vacances. C'est terrible. Parce que le pasteur, il doit être présent, le pasteur, il doit être disponible. Et puis, on sait bien que le pasteur est indispensable et puis qu'il fait tout. Donc, j'ai dû apprendre à changer ma conception. Personne n'est indispensable. J'ai aussi besoin de vacances. Et ce n'est pas parce que je pars en vacances que je néglige l'Église. Et c'est peut-être même le contraire. Parce que je néglige pas l'Église, je prends des vacances. C'est parce que je vous aime. Mais voyez, donc cette fausse culpabilité est la cause de mon mauvais schéma de pensée qui m'ont été peut-être inculqués. C'est une forme de légalisme par rapport à ça que je dois renverser. Généralement, les autres gens qui vous entourent, ils sont aussi assez forts pour vous culpabiliser. Donc, effectivement, nos enfants, ils nous rappellent assez bien. Vous t'avez dit qu'on irait là, puis on n'est pas allé. Non, je n'avais pas promis, mon chéri. Hein, mais au fond de vous, c'est vrai quand même, un petit peu de culpabilité, là. Il y a votre chef qui vous dit, t'as pas encore fini? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas encore fini, je suis un peu lent, il aurait voulu que j'aie fini. De culpabilité. Hein. Peut-être je fais mal mon boulot, etc. Donc, généralement, c'est de la fausse culpabilité, et puis on ne devrait même pas nous laisser culpabiliser par ces propos-là. Mais il faut apprendre à décoder, il faut apprendre à remarquer. Ok, non, ça, c'est pas vrai. J'ai fait mon boulot en temps et en heure, j'étais correct, j'ai pris le temps qu'il fallait, je ne me laisse pas culpabiliser par cette parole, par exemple. Puis la comparaison elle est aussi un grand piège qui peut provoquer un sentiment de culpabilité parce qu'on se base sur ce que les autres font. Donc si les autres l'ont fait, puis nous pas, alors on est moins bien, etc., puis on se culpabilise de ça. Donc pour vaincre la fausse culpabilité, il est important tout d'abord de la différencier de la vraie culpabilité. Je l'ai dit, il est nécessaire d'analyser rapidement la cause de cette culpabilité, puis de discerner si elle est justifiée ou non. Et puis le Saint-Esprit va nous aider à cela. Alors moi, il va me dire, Luc, t'as bien fait de dire non. C'était juste. Voilà, lâche. Enlève cette culpabilité, c'était juste. T'as super bien bossé, t'as pris des vacances, c'est très bien, c'était important. Personne ne t'en voudra. Est-ce que tu négliges l'Église ? Non. Alors stop. Stop, arrête cette pensée, stop la culpabilité. Si c'est bien de la fausse culpabilité, donc il faut s'attaquer à notre manière de penser qui a tenté de nous tromper. Donc là, il faut comprendre pourquoi je me suis laissé culpabiliser. Puis là, il faut demander au Seigneur qu'il vienne renouveler notre pensée, l'aligner à sa volonté. Nous devons saisir que par ce sentiment de culpabilité, c'est comme si nous nous condamnions tout seuls et sans cesse. Alors que la parole de Dieu, comme je l'ai dit, ne nous condamne pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que personne nous accuse, car il nous a déclarés justes. C'est comme une drôle d'idée de se condamner soi-même, alors que Dieu nous a libérés. Alors, je termine avec le plan pour la victoire. Rapidement, plan de secours. Face à la culpabilité, plusieurs options sont devant nous. Donc, on peut soit laisser nos pensées nous condamner, en repensant notre péché avec remords, en s'accusant, donc on laisse s'installer le sentiment d'échec, on revit plein de fois la situation, etc., dans nos têtes, et puis on n'arrive pas à voir autre chose. Ça, on peut faire ça, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez refuser, on peut refuser notre responsabilité, en faisant taire le sentiment de culpabilité, c'est ce que j'ai dit au début. On se trouve des excuses, on se rassure, etc. On peut se soulager le sentiment de culpabilité en le remplaçant par autre chose. L'alcool, les jeux, la nourriture, le shopping. Certains ils vont faire du shopping, ça enlève la culpabilité. Bon, le mari saura en remettre une couche. On peut se punir soi-même. En se privant de tout bonheur convaincu que nous ne le méritons pas. Donc on est tellement coupable qu'on dit maintenant, de toute façon, j'ai plus rien à le droit de vivre, et puis ça, c'est fini, et puis voilà, j'ai plus le droit au bonheur, entre guillemets. Et puis, la dernière, la bonne solution, affronter notre culpabilité pour avancer. Donc, gérer notre culpabilité sainement. Alors, quatre étapes simples. Donc je l'ai dit déjà, analyser. Est-ce que cette culpabilité, elle est juste ou pas ? Si elle n'est pas, je dis stop aux pensées accusatrices. Je travaille sur ce qui m'a fait penser que c'était justifié et je passe à autre chose. Si elle est justifiée, donc cette culpabilité, la seconde étape, c'est de la reconnaître. Reconnaître notre responsabilité. Comme David dans le psaume 51 dit « Envers toi, envers toi seul, j'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaisait. » Donc peut-être vous pouvez écrire une prière de repentance, ça peut être une bonne idée, écrire. Et puis pensez à redire ce que la parole enseigne, comme cette parole d'Ésaïe 43, 25 qu'on a lu tout à l'heure. « C'est moi seul qui efface tes transgressions, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. » Troisième étape, il faut modifier le schéma. Nos schémas de pensée, en se rappelant ce verset de 2 Corinthiens 10, 4 et 5, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Donc là, on a besoin de cet changement dans nos pensées. Puis la dernière étape, ouvrir nos bouches. En l'adorant avec reconnaissance, proclamer la liberté et sa pleine victoire. Puis laisser la joie monter, la joie d'être pardonné. Quand on est libéré de la culpabilité, il y a une joie extraordinaire qui arrive. Et puis, c'est bon, il faut laisser cette joie monter. D'ailleurs, encore dans le psaume 32, hein, David dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, le péché est couvert. » C'est vraiment ce que Jésus a fait pour nous. Hein. Il a couvert notre péché. Mais heureux ! Donc là, quand d'un coup, il y a ce poids qui tombe, il y a la joie qui revient. Donc, ouvrons nos bouches. Quatre étapes toutes simples. Donc, Jésus a pris notre condamnation, notre culpabilité. Je conclue maintenant. Si tu as encore un péché qui te hante ce matin, si tu as encore l'impression d'avoir raté trop de choses, s'il y a encore un poids qui est là sur toi, le Saint-Esprit t'invite à laisser Christ être victorieux dans ta vie ce matin. Ne garde pas cela pour toi, ne te prive pas de la liberté que Dieu t'offre. Il a autre chose pour toi. Il désire que tu puisses voir autre chose que ton péché. C'est ça qui se passe, comme le psaume 51, David disait, mais mon péché est sans cesse devant mes yeux. Ou bien au psaume 38, on l'a lu, hein, que ses yeux avaient perdu la lumière. Il n'y avait comme plus d'éclat. Mais ne reste pas comme ça, avec cette culpabilité qui t'empêche de voir ce que Dieu a pour toi. Si tu désires retrouver l'éclat dans tes yeux, cette étincelle d'espoir, de joie, je veux vraiment t'inviter ce matin à lui donner cette culpabilité et à saisir la victoire de Christ pour toi. J'aimerais simplement vous inviter à incliner vos têtes et pendant que personne ne regarde, si alors que je parlais de culpabilité, il y a quelque chose qui est revenu, je t'invite à rapidement analyser si c'est de la fausse culpabilité ou si c'est une vraie culpabilité. Puis je t'invite dans ce petit moment à laisser le Saint-Esprit te visiter, à dire stop à ces pensées mensongères de culpabilité, si c'est de la fausse culpabilité. Et puis à accueillir sa victoire, son pardon dans ta vie, si c'est de la vraie culpabilité. Mais ne vis pas, ne continue pas à vivre avec cette culpabilité. Ne pars pas d'ici avec ça. Il nous a affranchis pour la vraie liberté. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de continuer ton œuvre de transformation à l'intérieur de nous. Merci de nous faire prendre conscience de nos schémas de pensée qui parfois nous font culpabiliser pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Merci de nous apprendre à différencier ce qui est juste et pas juste. Seigneur, on ne veut pas se mettre nous-mêmes sous condamnation, sous un joug, alors que toi, tu nous as libérés, que tu as payé le prix pour cela. Mais Seigneur, merci parce que tu offres aussi la guérison, le pardon, la sanctification pour chacun d'entre nous qui avons une vraie culpabilité pour quelque chose de réel. Et Seigneur, ce matin, tu nous interpelles, tu nous dis, mais gardez pas ça. Alors on veut te donner, on veut confesser, on veut renouer cette relation avec toi. On veut accepter que le sacrifice de Jésus est tout suffisant. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est tout suffisant pour nous purifier aujourd'hui de tout péché. Seigneur, je prie que chacun qui entend cette prédication aujourd'hui puisse repartir libre, ou en tout cas avec le désir de ne plus garder cette culpabilité à l'intérieur. Merci pour ton œuvre. Sois glorifié, honoré, dans le nom de Jésus. Amen.